France Culture.
Mais tout de suite, on retrouve le journal de la rédaction avec vous, Mathieu Laurent.
Rebonjour Marie Sorbier et bonjour à toutes et tous. Plusieurs associations dont Droit au Logement demandent l'application de la loi réquisition ne compte plus les logements vides, argumentent-elles, et les sans-domicile fixe endurent des conditions hivernales, précision dans un instant d'Héloïse Weiss.
Depuis le 13 novembre, j'ai plus de vie. Je voudrais ma petite maison, mon petit travail, ma tranquillité, quoi. Je voudrais être madame tout le monde. Mais je suis madame personne, moi. C'est l'héritage du 13 novembre.
C'est la voix qu'une comédienne du documentaire 13 novembre, Le choix de Sonia, prête à celle qui a livré la position d'Abdelhamid Abaoud, le chef des commandos du 13 novembre 2015, abattu lors d'un assaut du raid à Seine-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Une cagnotte initiée par l'association de victimes Life for Paris, dont le montant vient de dépasser les 200 000 euros, va pouvoir enfin l'aider à se projeter dans l'avenir. Vous entendrez son président Arthur Desnouveaux. Dans l'actualité internationale, les frappes américaines sur des positions de l'organisation terroriste État islamique au Nigeria. En Chine, la politique de l'enfant unique vilipendée sur les réseaux sociaux après la disparition de l'une de ses figures clés, Pang Peiyun. Enfin, notre série d'invités sur le thème « Le patrimoine au défi de la restauration ». Fawzi Trita reçoit François Mérès, muséologue, titulaire de la chaîne UNESCO pour l'étude de la diversité muséale et professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle. Les températures étaient encore négatives ce matin dans la moitié nord de la France et la nuit prochaine sera encore glaciale. Pour protéger les personnes les plus vulnérables, sans domicile, le plan Grand Froid a été activé dans plusieurs départements et nombreux sont les centres d'hébergement d'urgence saturés. Et en plus, ces initiatives sont temporaires alors que la France compte au moins 350 000 personnes sans domicile fixe et plus de 4 millions globalement mal logés. Dans ce contexte, plusieurs associations exigent l'application d'une loi qui se heurte à la sacralité du droit de propriété. Bonjour Héloïse Weiss.
Bonjour.
Héloïse, il s'agit de la loi réquisition.
Oui, elle trouve d'ailleurs son origine en 1945, après la guerre. Et aujourd'hui, dans sa forme actuelle, elle permet d'attribuer de façon temporaire des logements vacants depuis un an à ceux qui n'en ont pas en échange d'une indemnisation aux propriétaires. Cela peut durer une année, renouvelable plusieurs fois en cas de travaux nécessaires. Sauf que la dernière application notable de cette loi date des années 95. C'est le président Jacques Chirac qui avait ordonné la réquisition de près de 1000 logements pour loger des familles en difficulté. Ces bâtiments appartenaient à des groupes financiers et à des compagnies d'assurance. Mais depuis, malgré un cadre clair, l'État, par l'intermédiaire des préfets, ne font pas usage de cette loi, regrette Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de l'association Droit au Logement.
Il y a la vacance, effectivement, parce que les locaux sont en mauvais état. Il y a la vacance de négligence de propriétaires qui ne veulent pas s'occuper à gérer un bien. Et puis on a la vacance aussi spéculative, c'est on laisse délibérément les lieux vacants. Entre guillemets, la réquisition, c'est vécu comme une atteinte au droit de propriété, mais pas du tout. Le propriétaire est indemnisé, c'est une mesure temporaire. Souvent, d'ailleurs, les lieux sont remis en état. Le bénéficiaire de la réquisition doit entretenir les lieux. Et simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'un logement, c'est fait pour habiter. C'est pas fait pour spéculer, quoi.
Selon l'INSEE, la France compte plus de 3 millions de logements vacants en 2023, soit une hausse de 60% depuis les années 90. La capitale compte à elle seule 75 000 locaux non habités.
Merci à vous, Héloïse Weiss. Ce qui suit dit le manque de considération à tout le moins, voire la négligence de l'administration française à l'égard d'une femme qui a eu le courage, le 15 novembre 2015, de communiquer aux forces de police la localisation du terroriste Abdelhamid Abaoud, caché dans un appartement de Saint-Denis, en banlieue parisienne, où il sera abattu deux jours après les tragédies du Bataclan, des terrasses de Paris et du Stade de France. 10 ans. 10 années se sont écoulées au cours desquelles Sonia, c'est un prénom d'emprunt, Sonia, placée sous protection policière, a dû mettre sa vie entre parenthèses. L'association de victimes Life for Paris a pris l'initiative de lancer le 11 décembre dernier une cagnotte pour l'aider à régler ses dettes, à se prêter un avenir. Cette cagnotte a dépassé ce matin les 200 000 euros. Arthur Desnouveaux est le président de Life for Paris.
Sonia, elle est dans une situation unique. Elle est protégée comme si elle était une repentie.
Sauf qu'elle, elle a aucun crime à se reprocher, c'est tout le contraire. Et donc, elle a dû littéralement renoncer à son nom, ses enfants et son compagnon aussi. Elle a dû prendre un nouveau nom, elle n'a pas d'existence, elle n'a pas d'état civil bien établi. C'est aussi pour ça qu'elle a des dettes. Au début, elle m'a expliqué qu'elle avait dû se payer un logement sans aucune aide parce que son nom ne rentrait dans aucune base. Pareil pour toucher le chômage. Enfin, en fait, tout est difficile, c'est un fantôme. Et elle est un fantôme parce qu'elle a commis quelque chose d'héroïque, et c'est ça le plus rageant dans toute cette histoire. Ce qui est vertigineux, c'est que visiblement sa vie est toujours en danger, il y a toujours une menace djihadiste qui plane sur elle. On peut espérer que dans 10 ans ce soit plus le cas quand même, mais en tout cas elle aura sacrifié des années et des années de bonheur, des années d'une vie simple comme elle l'avait avant, pour aider à sauver des gens. C'est à la fois magnifique et terrifiant, mais c'est pour ça que faire une cagnotte, ça nous paraissait être le minimum pour pouvoir l'aider et lui témoigner toute notre reconnaissance.
Voilà Arthur Desnouveaux, le président de Life for Paris, chez nos confrères de France Info. Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur l'enregistrement clandestin d'une conversation des journalistes Patrick Cohen et Thomas Legrand après la plainte des journalistes. Sur la vidéo diffusée par le magazine L'Incorrect, on les voit discuter avec deux cadres socialistes. Et c'est le caméra où en est l'enquête, c'est le moment de faire le point avec vous.
L'enquête a été ouverte en partie pour atteinte à l'intimité de la vie privée par captation et a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, la BRDP. Selon une source proche du dossier, le directeur de l'information de l'Incorrect, Arthur de Vatrignan, a été entendu par les enquêteurs au sujet de cette vidéo volée qui a largement été diffusée dans les médias de la sphère Bolloré comme CNews, Europe 1 ou le JDD. Lors de son audition devant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, Patrick Cohen avait fait remarquer qu'en 2 semaines seulement, CNews avait réservé 853 séquences à cette vidéo. Et une deuxième plainte a été déposée par Thomas Legrand, cette fois-ci à propos de sa discussion avec Laurence Bloch, ancienne patronne de France Inter, qui a été enregistrée à leur insu dans un café. Pas de responsable politique en jeu, c'était un rendez-vous privé entre deux amis, dénonce Thomas Legrand. Il s'agit d'une plainte contre X pour captation illégale de la conversation et d'une plainte visant Europe 1 et CNews pour divulgation de l'enregistrement et diffusion de fausses nouvelles. L'avocat du journaliste précise que l'idée est que, au-delà de la captation illégale, le contenu a été falsifié. De son côté, Laurence Bloch a également porté plainte pour délit d'espionnage audiovisuel de la vie privée.
Estelle Caméraire. Il est 12h37, vous écoutez le journal de France Culture. L'armée israélienne annonce avoir bombardé ce matin plusieurs sites du mouvement pro-iranien Hezbollah au Liban, disant avoir visé un centre d'entraînement et des entrepôts d'armes, et ce malgré un cessez-le-feu observé, enfin entré en vigueur en novembre 2024 entre les deux belligérants. L'armée américaine a, elle, bénéficié du travail des services de renseignement nigérians avant de lancer des frappes dans le nord du pays, dans l'état du Sokoto, avec pour cible les effectifs de l'organisation terroriste État islamique qui régulièrement revendique enlèvements massifs et massacres. Frappe censée, selon Donald Trump, voler au secours des chrétiens persécutés par l'EI. Aucun bilan à l'heure qu'il est, aucune précision quant au nombre d'objectifs visés, mais Valérie Creva au Nigeria, mentionnons que l'EI n'est pas la seule organisation terroriste à commettre de tels crimes. Qui sont au fond les groupes qui sèment la terreur au Nigeria ?
Alors, pour faire simple, il y a des bandes criminelles qui sévissent dans le nord-ouest, une insurrection islamiste dans le nord-est, des conflits fonciers dans les régions centrales et des troubles séparatistes dans le sud-est. Pour ce qui est des groupes djihadistes, le plus connu est Boko Haram, qui a acquis une notoriété mondiale en 2014, après l'enlèvement de plus de 200 écolières du village de Chibok. Implanté dans le nord-est du Nigeria, Boko Haram s'est ensuite scindé en factions rivales. Après la mort de son chef Aboubakar Shekau il y a 4 ans, le groupe continue néanmoins de mener des attaques contre des civils et les forces de sécurité nigérianes. Parmi les groupes dissidents de Boko Haram, il y a l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui est lui aussi très actif dans le nord-est et mène des attaques ciblées. Il a par exemple tué récemment un général de brigade nigérian lors d'une embuscade dans l'État de Borno. Citons également Ansaru, affilié à l'État islamique et présent dans l'ouest du Nigeria.
Valérie, les chrétiens ne sont pas les seuls à être persécutés.
En novembre dernier, Donald Trump avait cité le chiffre de plus de 3000 chrétiens assassinés au Nigeria. Il faisait référence à un rapport de Portes Ouvertes, une organisation chrétienne internationale qui enquête sur les persécutions des chrétiens dans le monde. Et dans ce rapport, qui remontait sur les 12 mois précédents, l'organisation recensait également la mort de 2300 musulmans sur la même période. Les Nigérians de confession musulmane sont donc également visés par des attaques violentes, souvent liées à des tensions ethniques ou à des conflits fonciers.
Valérie Crova, après avoir été interdit de visa américain par Washington, le Britannique Imran Ahmed porte plainte. Il y a une semaine, 5 personnalités européennes, dont le Français Thierry Breton, ont été interdites de séjour aux États-Unis pour leur rôle dans la régulation de la tech. Imran Ahmed est le premier à contre-attaquer. Selon lui, il est pris pour cible parce qu'il est le fondateur du CCDH, une ONG qui lutte contre la haine en ligne. Myriam Roch-Massarin, bonjour.
Bonjour.
Myriam, il a donc déposé plainte avant-hier au tribunal de New York.
Plainte qui vise 4 personnes de l'administration Trump, 4 grands alliés du président américain. Parmi eux, le secrétaire d'État Marco Rubio, la ministre de la Justice Pam Bondi, mais également la ministre de l'Intérieur et le directeur de l'ICE, la police de l'immigration. Imran Ahmed craint une arrestation imminente et anticonstitutionnelle, car ce Britannique vit légalement à Washington depuis 4 ans. Il dispose d'une green card, un titre de séjour permanent aux États-Unis. Son épouse et sa fille sont, elles, de nationalité américaine. Le directeur du CCDH, Association de lutte contre la haine en ligne, explique ne pas vouloir se laisser intimider. Depuis plusieurs années, son ONG dénonce les pratiques du réseau X, ancien Twitter, et le CCDH a régulièrement pointé du doigt la montée en puissance de contenus racistes et antisémites, notamment depuis le rachat de X par le milliardaire Elon Musk, proche de Donald Trump. Le gouvernement américain avait déjà accusé l'association de censure. Il y a 4 ans, l'ONG avait affirmé que 12 personnes diffusaient la majorité des contenus complotistes anti-vaccins en pleine pandémie de Covid-19. Parmi elles figurait notamment l'actuel ministre américain de la Santé, Robert Kennedy Jr. Pour Elon Musk, le CCDH est une organisation criminelle. Il a déjà porté plainte pour diffamation, plainte rejetée l'année dernière par un tribunal californien.
Merci à vous, Myriam Roch-Massarin. Le gouvernement japonais vient d'approuver un budget record, celui du prochain exercice fiscal, pour financer aussi bien l'augmentation des dépenses de défense que la hausse des coûts de sécurité sociale, alors que l'inflation tenace continue de peser sur la consommation. Ce budget intervient aussi alors que la Chine et le Japon sont enlisés dans une querelle à la suite de la suggestion en novembre de la première ministre Sanae Takaishi, selon laquelle Tokyo pourrait intervenir militairement en cas d'attaque contre Taïwan. En Chine, elle incarnait la politique de l'enfant unique dans les années 90. Responsable de la planification familiale à cette époque, Peng Peiyun vient de décéder à l'âge de 96 ans. Devenu le symbole du très strict contrôle forcé des naissances en Chine, sa disparition est commentée sur les réseaux sociaux chinois et les internautes se laissent aller aux critiques. Le récit de notre correspondant à Pékin, Sébastien Berriot.
Le décès de Peng Peiyun a été annoncé par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle, qui évoque une combattante communiste loyale et salue son travail auprès des femmes et des enfants. Mais sa disparition est vue de manière très différente par de nombreux internautes chinois qui n'hésitent pas à braver la censure en assimilant ouvertement l'ancienne directrice de la planification familiale aux années les plus sombres de la politique de l'enfant unique, lorsque dans les campagnes chinoises, des femmes étaient contraintes à avorter ou à être stérilisées. « Ces enfants perdus vous attendent là-haut, dans l'au-delà », écrit un internaute sur le réseau social Weibo. « Ces enfants, s'ils étaient nés, aurait presque 40 ans aujourd'hui », écrit un autre chinois. Cette fois, la censure n'a pas effacé les messages. Même lorsque les internautes remettent ouvertement en cause la politique de l'enfant unique, responsable selon eux en partie de la situation actuelle de la Chine, qui n'arrive plus à renouveler sa population, faute de naissances suffisantes.
Il est 12h44, venons-en à notre série Le patrimoine au défi de la restauration. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les musées et sur la vague de construction presque frénétique qui a marqué ces dernières décennies. Nombre d'entre eux ont été édifiés selon des logiques propres à leur époque, mais aujourd'hui, beaucoup se trouvent confrontés à l'obsolescence de leurs bâtiments nécessitant d'importants travaux de restauration, de transformation, voire de réinvention. Fawzi Trita reçoit François Mérès, donc muséologue, titulaire de la chaire UNESCO pour l'étude de la diversité muséale et professeur à l'université Sorbonne Nouvelle.
Bonjour François Mérès.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. François Mérès, diriez-vous que plusieurs musées qui ont été construits dans les années 60 avec une certaine logique sont aujourd'hui à bout de souffle? Est-ce que vous êtes un muséologue inquiet?
Alors, inquiet, pas tellement, parce que globalement, même si un musée s'autodétruit progressivement de toute façon ou devient obsolète, il y en a d'autres qui vont ressurgir. D'un autre côté, évidemment, il y a tout un travail, évidemment, de maintenance qui parfois n'a pas peut-être été développé de manière suffisante et qui amène, dans un certain nombre de cas, des obsolescences prévisibles.
On peut peut-être comprendre que des musées bâtis il y a plusieurs décennies, c'était assez difficile d'anticiper.
Parfois oui, d'un autre côté, c'est toutes les règles qu'on peut observer pour la construction d'un bien, que ce soit une maison de particulier ou un établissement public. On suppose effectivement qu'en l'espace de parfois un siècle, parfois 50 ans, il va tomber dans l'obsolescence et donc qu'il faut prévoir des sommes pour le rénover, en assurer la maintenance.
Et aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, on doit payer la facture, en fait, la facture de la restauration.
Si vous n'avez pas programmé un certain nombre de dépenses et donc que vous n'avez pas progressivement mis un peu d'argent de côté, vous vous retrouvez face au pied du mur. Il y a une autre logique qu'on peut observer au niveau de l'État et qui peut amener justement au fait de se dire, bon, mais à un moment ou à un autre, on va trouver l'argent pour une rénovation en profondeur.
C'est vrai que pendant très longtemps, le modèle qui a été privilégié, c'est le modèle dit Bilbao. Hein, donc c'est ce grand musée, évidemment, qui a été inauguré en 1997 et qui a permis de relancer l'attractivité de la ville. Est-ce que ce modèle-là, le musée figure de proue d'une ville, est-ce qu'il n'a pas fait son temps ?
Ce modèle a très largement influencé d'ailleurs l'architecture de beaucoup de musées. On s'est bien rendu compte, et c'est pour ça qu'on a parlé d'un effet Bilbao, de la logique d'attractivité évidemment d'une architecture spectaculaire, a fortiori évidemment celle de ce bâtiment emblématique. D'un autre côté évidemment, ce dont on s'est rendu compte, c'est que d'une part, si le phénomène a extrêmement bien fonctionné avec Bilbao, qui a attiré immédiatement, du jour au lendemain, plus d'un million de visiteurs qui ne seraient jamais venus à Bilbao s'il n'y avait eu le musée, mais aussi d'ailleurs toute une série d'autres investissements, les métros, l'aéroport, etc. etc. Et si on ne cesse de construire à un moment ou à un autre, ça veut dire aussi qu'il faut entretenir, qu'il faut aussi financer tous ces espaces qui sont parfois extrêmement coûteux et que peut-être à un moment, il faudra aussi décider quels sont les lieux qu'on veut le plus directement préservé ou si on veut envisager d'autres logiques.
Ces dernières années, d'autres musées ont été inaugurés. Je pense par exemple au musée des Confluences de Lyon ou encore le musée de la Romanité à Nîmes. Ça, c'était vraiment dans les années 2010. Est-ce que on a retenu les leçons du passé pour construire ces bâtiments et est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec le même problème dans 10, 20, 30 ans ?
Effectivement, on se retrouve face à, pour un musée comme celui des Confluences, qui a d'ailleurs demandé énormément de temps parce que la construction était extrêmement complexe. Il y a forcément des détails techniques qui potentiellement seront peut-être cause de plus de fragilité dans les années à venir. D'autre part, évidemment, il y a tous les enjeux de changement climatique, de transformation du point de vue des règles de chauffage, de conditionnement, etc., amène aussi une complexité par rapport à ces bâtiments-là. Et forcément, évidemment, donc des budgets supplémentaires dont il faudrait demander à chaque responsable comment, justement, sur les 15 ou 20 années à venir, il y a possibilité de pouvoir prévoir, justement, ces investissements futurs.
On parle beaucoup de financement. Qui seront les acteurs de ces restaurations ?
Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas se faire pour l'ensemble des établissements. Et on se rend bien compte, évidemment, qu'il y aura des choix à opérer.
Des choix qu'il va donc falloir opérer, mais qui seront tributaires, forcément, de choix politiques.
Oui, des choix politiques qui peuvent même, dans un certain nombre de cas, s'avérer plus ou moins extrêmes. Alors, je pense effectivement à un ouvrage qui est paru il y a une douzaine d'années en Allemagne, dit Kulturinfarkt, l'infarctus culturel, qui prônait en quelque sorte la suppression de, si je ne m'abuse, la moitié des investissements et des financements dans la culture, en disant il y a trop de culture, il faut pouvoir faire des choix difficiles, mais des choix nécessaires pour justement pouvoir sauver le reste. Alors c'était une mesure extrême qui avait fait beaucoup parler à l'époque, qui n'a pas été poursuivie, mais qui pourrait amener, en cas effectivement de changement politique majeur, à ce type, évidemment, de réflexion, c'est-à-dire de se dire, mais on arrête de financer une partie du théâtre ou des musées, etc., et on décide de concentrer cet argent sur un certain nombre d'établissements en lien avec des enjeux qui sont politiques.
Merci beaucoup, François Mérès, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes muséologue.
Merci.
Et merci à Aloïs Guérin pour la préparation. Demain, nous continuerons d'évoquer les musées avec le plus symbolique de tous, le Louvre, avec Marie-Alix Molinier-Andlauer, géographe des musées à Sorbonne Université. Quelques mots de la météo de l'après-midi, du soleil au nord, de la pluie au sud, limite pluie-neige se situe vers 1600 mètres, température de saison, comprise entre 1 et 6 degrés sur la moitié nord, entre 7 et 12 degrés au sud, jusqu'à 12 à 15 degrés sur l'arc méditerranéen. Ce journal a été préparé avec Alix Forgeau à la technique, Éric Perruchot-Triboulet. Prochaines informations à 18h, elles vous seront présentées par Fauzi Trita.